Le seigneur de la douleur, c'est le Gritch, murmura-t-il enfin. Évidemment. Tu es d'ici, de la cité des poètes ? Elle sourit tout en secouant doucement la tête. Cassade finit de boire son café et reposa la tasse. Il avait toujours l'impression de se trouver dans un rêve, mais ce rêve était d'une réalité bien plus concrète que toutes les cimes auxquelles il avait jamais participé. Le soleil était chaud sur son visage et sur ses mains, et le café avait un goût amer non déplaisant. « Viens, Cassade, » lui dit Moneta. Ils traversèrent une étendue de sable froid. Cassade leva plusieurs fois les yeux vers le ciel, sachant que le vaisseau torche extro pouvait les anéantir du haut de son orbite, mais brusquement certain qu'il ne le ferait pas. Les tombeaux du temps se trouvaient au fond d'une vallée. Un obélisque court y brillait d'une lueur intérieure, tandis qu'un sphinx de pierre semblait au contraire absorber la lumière. Une structure complexe de pylônes aux formes contournées semblait projeter des ombres uniquement sur elle-même. D'autres tombeaux se profilaient contre le soleil levant. Chacun avait sa porte et aucune n'était fermée. Cassade savait que cela datait du temps où les premiers explorateurs avaient découvert les sites et qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur. Plus de 3 siècles de fouilles à la recherche d'autres caveaux, monuments ou galeries cachées n'avaient abouti à aucun résultat. « Tu ne peux pas aller plus loin », lui dit Moneta tandis qu'il s'approchait de la paroi qui marquait le début de la vallée. « Les marées du temps sont trop fortes aujourd'hui. » L'implant tactique de Cassade ne pouvait pas l'aider. Il n'avait pas de persoc. Il fouilla sa mémoire. « Tu veux parler des champs de force anthropiques qui entourent les tombeaux du temps ?» dit-il enfin.
« Oui.
Ces ruines sont très anciennes. Les champs de force anthropiques les empêchent de vieillir. »
« Non, » fit Moneta. « Les marées du temps servent à ramener les tombeaux en arrière dans le temps. »«
En arrière dans le temps ?» répéta stupidement Cassade.
« Regarde. »
Quelque chose de miroitant, comme un mirage, venait d'apparaître soudain dans la brume au milieu d'un nuage de sable et d'ocre tourbillonnant. Cela ressemblait à un arbre bardé d'épines de fer qui remplissait la vallée et s'élevait sur 200 mètres jusqu'à la hauteur du sommet de la paroi rocheuse. Ses branches ne cessaient de disparaître et de se reformer comme les éléments d'un hologramme mal réglé. La lumière du soleil faisait jouer des reflets sur les épines de 5 mètres de long. Sur une 20aine au moins de ces épines, des extros, hommes et femmes, entièrement nus, étaient empalés. Sur d'autres branches, il y avait d'autres cadavres ainsi suppliciés, et ils n'étaient pas tous humains. Le sable tourbillonnant empêchait de bien voir. Quand le vent se calma, la vision disparut.
« Viens, » répéta Moneta.
Cassade la suivit à travers les rides des marées du temps, évitant le flux et le reflux des champs anthropiques, un peu comme un enfant jouant à cloche-pied avec le ressac sur une vaste plage de l'océan. Il sentait physiquement le contact des vagues du temps dans chaque cellule de son corps, et cela lui procurait une curieuse sensation de déjà-vu. Juste après l'entrée de la vallée, là où les collines s'ouvraient sur des dunes et où les basses plaines marécageuses conduisaient à la cité des poètes, Moneta effleura de la main un mur d'ardoise bleue et une entrée secrète leur ouvrit le passage dans une longue salle basse taillée à même la face de la falaise.
« C'est ici que tu vis ?» demanda Cassade.
Il ne voyait cependant aucun signe d'habitation dans cette chambre dont les parois de pierre étaient creusées d'une multitude de niches et de renfoncements.
« Nous devons nous préparer, »
chuchota Moneta tandis que la lumière ambiante prenait des reflets dorés. Elle abaissa du plafond un râtelier chargé d'accessoires, tandis qu'une fine bande de polymère accrochée au plafond lui servait de miroir. Cassade la regardait faire avec la placidité d'un rêveur. Elle ôta ses vêtements, puis le déshabilla à son tour. Leur nudité n'avait plus rien d'érotique. Elle était devenue cérémonielle.
« Tu hantes mes rêves depuis des années, » lui dit-il.
« Je sais.
Ton passé est mon avenir.
L'onde de choc des événements se déplace dans le temps comme les rides à la surface d'une mare. » Cassade cligna des paupières, tandis qu'elle saisissait une férule d'or pour lui toucher la poitrine. Il ressentit un léger choc et sa chair devint un miroir, son visage et sa tête un ovoïde lisse, reflétant les couleurs et les textures de la salle. Un instant plus tard, elle le rejoignit et sa peau devint une cascade irisée de reflets liquides, comme de l'eau sur du vif argent sur du chrome. Il vit les reflets de ses propres reflets sur chaque courbe et chaque muscle du corps de Moneta, dont les seins captaient et courbaient la lumière, les pointes dressées comme de minuscules geysers, à la surface lisse d'un lac. Il s'avança pour l'enlacer et sentit leur surface se joindre comme des fluides magnétisés. Sous les champs connectés, leur chair se touchait.
« Tes ennemis t'attendent aux portes de la cité, » murmura-t-elle.
Le chrome de son visage était animé d'une lumière mouvante.
« Mes ennemis ? Les extros ? Ceux qui t'ont suivi jusqu'ici ?»
Il secoua la tête et vit son reflet déformé faire de même.
« Ils n'ont plus aucune importance, » dit-il. « Ils en ont, » murmura Moneta. « Les ennemis sont toujours importants. Tu dois t'armer.
Avec quoi ?» Au moment même où elle disait ces mots, il sentit qu'elle le touchait avec une sphère de bronze ou plutôt un tore d'un bleu terne. Son propre corps modifié communiquait maintenant avec lui aussi clairement qu'un soldat au rapport dans l'implant de son circuit de commandement. Il sentit le sang affluer en lui avec une vigueur turgescente.
« Viens !»
souffla Moneta en le guidant de nouveau vers le désert. La lumière solaire semblait lourde et polarisée. Il se sentit glisser le long des dunes, couler comme un liquide dans les rues de marbre blanc de la cité abandonnée. Près de l'extrémité ouest des ruines, là où les restes délabrés d'un monument laissaient encore lire sur leur linteau le nom d'amphithéâtre des poètes, quelque chose se dressait qui les attendait. Un instant, Kassad crut qu'il s'agissait d'une autre personne, parée des reflets chromes des champs de force dont ils étaient eux-mêmes drapés. Mais il n'y avait rien d'humain dans cet assemblage de vif argent et de chrome. Comme en un rêve, Kassad remarqua ses quatre bras, les lames rétractiles de ses doigts, la profusion de piquants sur la gorge, au front, aux poignets, aux genoux et sur tout le corps. Mais il ne pouvait, surtout, détacher son regard des deux yeux aux milliers de facettes qui brûlaient d'une flamme rouge, auprès de laquelle la lumière du soleil pâlissait, et les ombres prenaient des reflets sanglants.
« Le Gritch, » se dit Kassad. « Le seigneur de la douleur, » chuchota Moneta.
La créature tourna alors les talons et les guida vers la sortie de la cité morte. Kassad approuvait en connaisseur la manière dont les extros avaient organisé leur défense. Les deux engins d'assaut étaient posés à moins de 500 mètres l'un de l'autre, leurs canons, projecteurs et tourelles lance-missiles, se couvrant respectivement ainsi que champs de 360 degrés de tir. Les fantassins extros avaient pris la peine d'élever des remblais à une centaine de mètres de chaque vaisseau, et Kassad aperçut au moins deux blindés EM au sol, leurs tubes de projection et de lancement commandant la large plaine marécageuse déserte qui les séparait de la cité des poètes. Il y avait quelque chose d'anormal dans la vision de Kassad. Il percevait les champs de confinement des vaisseaux, qui se recouvraient en partie, sous la forme de minces rubans de brume jaune, et les détecteurs de mouvement ou les mines antipersonnelles comme des œufs entourés de pulsations de lumière rouge. Il cligna plusieurs fois des paupières, conscient d'une autre anomalie qu'il ne parvenait pas à définir. Puis il comprit soudain. En plus de la consistance de la lumière et de sa perception augmentée des champs d'énergie, c'était l'absence de tout mouvement qui était inhabituel. Les extros qu'il apercevait, y compris ceux qui se trouvaient dans une posture de mouvement, étaient aussi figés que les soldats de plastique avec lesquels il jouait enfant dans les bidonvilles de Tarsis. Les blindés étaient en position basse, au centre de leur fortification, mais même leur radar d'acquisition, qu'il percevait sous la forme d'un triangle d'arc mauve concentrique, était immobile. Il leva les yeux vers le ciel et vit une sorte de gros oiseau en suspens, comme un insecte dans une inclusion de résine. Il passa à portée d'un nuage de poussière soulevé par le vent, elle aussi en suspens, tendit une main de chrome et fit tomber à terre des spirales de particules brillantes. Devant eux, le Gritch s'avançait sans se presser à travers le dédale rouge des mines à détecteur de présence, enjambait les cordons bleutés des rayons de déclenchement, se baissait pour passer sous les pulsations mauves et immobiles des détecteurs des batteries de tir automatique, traversait le champ de confinement jaune, puis le mur bleu-vert du périmètre de défense sonique, et pénétrait dans l'ombre de l'engin d'assaut, suivi de Moneta et de Kassad.
Comment est-ce possible ?
Il se rendit compte qu'il avait formulé la question par un moyen qui n'était pas tout à fait de la télépathie, mais qui dépassait de beaucoup les possibilités technologiques d'un simple implant de conduction.
Il contrôle le temps. Le seigneur de la douleur, évidemment. Que faisons-nous ici ?
Elle fit un geste en direction des extrofigés.
Ce sont des ennemis.
Kassad eut l'impression de sortir finalement d'un long rêve.
Tout cela était réel.
Les yeux de l'extro devant lui, qui ne clignait pas sous son casque, étaient réels, de même que le vaisseau d'assaut extro, dressé comme une pierre tombale géante couleur de bronze. Fedman Kassad s'avisa alors qu'il aurait pu les tuer tous, jusqu'au dernier, commando, marine, équipage, sans qu'ils ne puissent rien faire pour se défendre. Le temps ne s'était pas arrêté, il le savait, pas plus qu'il ne s'arrêtait lorsqu'un vaisseau passait en mode de propulsion Hawking. C'était juste une question de vitesse relative. L'oiseau figé finirait par achever son battement d'aile au bout de quelques minutes ou de quelques heures. La paupière de l'extro battrait si Kassad avait la patience de l'observer jusque-là. Mais dans l'intervalle, Kassad, Moneta et le Gritch pouvaient les tuer tous sans qu'ils sachent même qu'ils étaient attaqués.
Ce ne serait vraiment pas juste, se disait Kassad.
Cela représenterait la violation ultime du nouveau Bushido, pire, à sa manière, que le massacre gratuit des civils. L'essence de l'honneur résidait dans l'instant de l'affrontement d'égal à égal. Il allait faire part de ses réflexions à Moneta lorsqu'elle lui dit, ou plutôt pensa,
« Regarde bien !»
Le temps s'était remis à couler, dans une explosion qui n'était pas sans rappeler l'irruption brutale de l'air dans un sas. L'oiseau reprit son cercle et son vol vers le haut. La brise du désert souffla de nouveau ses particules de poussière contre le champ de confinement à charge statique. Un commando extro, qui avait un genou à terre, se releva pour voir le Gritch et les deux silhouettes humaines, cria quelque chose dans son équipement de communication tactique et leva le canon de son pistolet à énergie. Le Gritch ne parut pas se déplacer. Pour Kassad, il cessa simplement d'être à un endroit pour apparaître simultanément à un autre endroit. Le commando poussa un deuxième cri, plus bref, puis baissa les yeux, comme incrédule, tandis que la main du Gritch se retirait de sa poitrine en tenant son cœur entre ses doigts de métal acéré. Il ouvrit la bouche pour parler, puis s'écroula. Kassad pivota sur sa droite pour faire face à un autre extro en combinaison de combat, qui levait lourdement son arme. Kassad avança la main, perçut le bourdonnement du champ de force au reflet de chrome et vit le tranchant de sa main pénétrer la combinaison, le casque et la base du cou de l'extro, dont la tête se détacha et roula dans le sable. Il sauta à pieds joints dans une tranchée. Plusieurs soldats commencèrent à se retourner. Le temps était toujours désarticulé. L'ennemi se déplaçait un instant au grand ralenti, puis au 4/5 de la normale l'instant d'après, mais jamais aussi vite que Kassad. Envolés ses scrupules à propos du nouveau Bushido. Il avait devant lui des barbares qui avaient essayé de le tuer. Il brisa la nuque d'un fantassin, s'écarta, fit entrer ses doigts de chrome rigide dans le corps d'un deuxième, broya le larynx d'un troisième, esquiva sans difficulté une lame de poignard plongeant sur lui au ralenti et disloqua d'un coup de pied l'épine dorsale de celui qui l'attaquait. Puis il bondit hors de la tranchée. « Kassad !» Il baissa la tête pour éviter le rayon laser qui balayait l'air au niveau de son épaule dans un grésillement de lumière rubis. L'odeur d'ozone demeura.
« Impossible, se dit-il. Je viens d'esquiver un rayon laser. »
Il ramassa un caillou et le lança sur l'extro qui servait le clap monté sur l'un des blindés. Il y eut un bang sonique, puis l'artilleur explosa entièrement vers l'arrière. Kassad se baissa pour extraire une grenade au plasma de la cartouchière d'un cadavre, se rua vers l'écoutille du blindé et se trouvait déjà à 30 mètres de distance lorsque l'explosion souleva un geyser de flammes aussi haut que le nez d'un vaisseau de descente. Kassad s'arrêta au cœur de la tempête pour observer Moneta, entourée de son propre cercle de carnage. Elle était éclaboussée de sang, mais celui-ci n'adhérait pas à elle et coulait comme de l'huile à la surface de l'eau, sur les courbes irisées de son menton, ses épaules, ses seins et son ventre. Elle le regarda par-dessus le champ de bataille, et il sentit monter en lui un nouvel élan de désir de sang. Derrière Moneta, le Gritch se déplaçait lentement au milieu du chaos, choisissant ses victimes comme s'il cueillait des fruits. Il continuait de disparaître et d'apparaître, et Kassad comprit que, pour le seigneur de la douleur, Moneta et lui devaient donner l'impression de se déplacer aussi lentement que les extros par rapport à eux. Le temps fit un nouveau bond au 4/5. Les extros survivants étaient pris de panique. Ils se tiraient les uns sur les autres, abandonnant leur poste, se battant pour monter les premiers dans le vaisseau. Kassad essaya d'imaginer ce que les deux dernières minutes avaient dû représenter pour eux. Des fantômes flous pénétrant leur défense, faisant sauter leurs têtes ou leurs membres dans des gerbes de sang. Il voyait Moneta qui s'en donnait à cœur joie, tailladant et broyant l'ennemi. À sa grande surprise, il s'aperçut qu'il pouvait, dans une certaine mesure, agir sur le temps. Un battement de paupières et ses adversaires ralentissaient à un tiers de son propre rythme. Un autre battement et le flux du temps redevenait presque normal. Son sens de l'honneur et de l'équité lui dictait d'arrêter le massacre, mais sa soif de sang, d'une agressivité presque sexuelle, balayait tout scrupule. Quelqu'un, à l'intérieur du vaisseau, avait bloqué le sas, et un commando terrorisé lança une charge creuse au plasma pour faire sauter la porte. La foule des extros s'engouffra à l'intérieur, piétinant les blessés dans sa fuite éperdue devant des tueurs invisibles. Kassad entra avec les autres. L'expression « se défendre comme une panthère acculée » dit bien ce qu'elle veut dire. Dans toutes les histoires des grandes batailles militaires, il y a toujours eu des combattants humains qui se sont défendus avec la dernière énergie dans des endroits où toute fuite leur était impossible, que ce soit dans les couloirs de la Haie Sainte et de Hougoumont, à Waterloo, ou bien au plus profond des souterrains de l'Usus. Quelques-uns des plus féroces corps à corps de l'histoire se sont déroulés dans des espaces exigus interdisant toute retraite, et ce fut le cas ce jour-là. Les extros se battirent comme des panthères acculées et périrent jusqu'au dernier. Le Gritch avait démantelé le vaisseau. Moneta s'occupa de massacrer la soixantaine de commandos demeurés à leur poste à l'extérieur, et Kassad extermina ceux qui étaient à l'intérieur. Finalement, le deuxième vaisseau extro tira sur celui qui était condamné, mais Kassad l'avait déjà quitté, et il contempla les couleurs irisées des rayons de particules et des faisceaux laser à haute énergie qui se traînaient vers lui, suivis, une éternité plus tard, de missiles qui avançaient si lentement qu'il aurait pu écrire son nom sur eux pendant leur vol. Tous les extros du premier vaisseau étaient déjà morts. Le bâtiment était couché sur le flanc, mais son champ de confinement était toujours actif. La dispersion de l'énergie et les explosions provoquées par l'impact projetèrent des cadavres sur tout le périmètre, mirent feu au matériel et vitrifièrent le sable. Mais Kassad et Moneta étaient à l'abri d'un dôme de flammes orange lorsque le deuxième vaisseau se retira dans l'espace.
« Est-ce qu'on ne peut pas les arrêter ?»
haleta Kassad qui transpirait à grosses gouttes et tremblait littéralement d'excitation.
« Ce serait possible, » répliqua Moneta. « Mais nous préférons qu'ils s'enfuient pour transmettre le message à leur essaim. »«
Le message ? Quel message ?»«
Approche, Kassad. »
Il se retourna au son de sa voix. Autour d'elle, le champ de force réfléchissant avait disparu. La peau de Moneta était luisante de sueur. Ses cheveux noirs collaient à ses tempes. Les pointes de ses seins avaient durci.
« Viens, » dit-elle.
Kassad baissa les yeux pour examiner son propre corps. Le champ de force qui le protégeait avait disparu, il l'avait supprimé par sa simple volonté, et il était sexuellement plus excité que jamais.
« Viens !»
répéta Moneta à voix basse. Il s'avança jusqu'à elle et la souleva, sentant dans ses mains la douceur de ses fesses huilées de sueur. Il la porta sur une élévation de terrain couverte d'un tapis d'herbe et la posa entre des piles de cadavres extros. Puis il lui ouvrit les cuisses d'un mouvement du genou, en tirant vers le haut ses deux poings serrés dans une seule main pour les clouer au sol dans le prolongement de son corps. Il abaissa ensuite son corps mince et glissant entre ses jambes.
« Oui, »
murmura-t-elle tandis qu'il lui embrassait le lobe de l'oreille gauche, posait les lèvres sur la pulsation qui faisait battre le creux de son cou, léchait la pellicule de sueur salée sur ses seins. « Tous ces morts gisant autour de nous, et tant d'autres à venir, des milliers, des millions. Tous ces ventres morts qui gargouillent de rire.
ces longues files de soldats sortant des grands vaisseaux portiers pour se jeter directement dans les flammes qui les attendent.
« Oui !» fit le souffle chaud de Moneta à son oreille. Libérant ses mains, elle les glissa le long des épaules trempées de Cassade, creusant de longs sillons avec ses ongles dans son dos, puis agrippant ses fesses pour l'attirer plus près d'elle. Son érection racla la toison pubienne, pulsa contre l'arrondi de son ventre. Porte distance s'ouvrant pour laisser passer les fuseaux glacés des gros porteurs de combat. Chaleur des explosions au plasma. Vaisseaux dansant et mourant par centaines, par milliers, comme des grains de poussière dans la tempête. Rayons géants de lumière rubis solidifiés traversant d'immenses étendues, baignant leur objectif d'un spasme ultime de chaleur irradiante, corps en ébullition dans la lumière rougeoyante.
« Oui !» fit Moneta en lui ouvrant sa bouche et son corps. Il sentit sa chaleur de haut en bas, sa langue explorant sa bouche tandis qu'il la pénétrait, accueilli par un doux étau de friction lubrifiée. Il s'enfonça de tout son corps, se retira légèrement, se laissa envahir par l'ivresse moite et brûlante et replongea tandis qu'elle synchronisait ses mouvements avec lui. Explosion de soleil sur des centaines de mondes, continent livré aux flammes de spasmes aveuglants, mer en ébullition. L'atmosphère elle-même prend feu. Les océans d'air super chaud se soulèvent comme la peau excitée au contact de la main d'un amant.
« Oui, oui, oui !»
Le souffle brûlant des lèvres de Moneta effleure les siennes. Sa peau est d'huile et de soie. Il accélère maintenant son rythme. L'univers se contracte et les sensations éclatent. Ses sens se rétractent tandis qu'elle le serre dans son fourreau lustré et que ses hanches le cognent sauvagement en réponse à la terrible montée en puissance qui fait trembler, irrésistible, la base de son être. Il grimace, ferme les yeux et voit des boules de feu qui entrent en expansion, des étoiles qui meurent, des soleils qui explosent en un brasier de pulsations géantes, des systèmes solaires qui meurent dans un déchaînement de destruction extatique. Il sent une douleur dans sa poitrine. Son mouvement de hanche continue, s'accélère, même quand il ouvre les yeux et voit l'énorme épine d'acier qui surgit de la poitrine de Moneta et qui manque de l'empaler tandis qu'il se redresse par réflexe en arrière. La lame d'acier a fait couler son sang qui goutte sur la chair pâle de la fille, à présent réfléchissante comme un miroir, froide comme du métal mort. Les hanches de Cassade sont toujours en mouvement, bien qu'il perçoive, de son regard voilé par la passion, les changements qui rétractent et durcissent les lèvres de Moneta, révélant des rangées de lames d'acier à la place des dents. Des scalpels lacèrent ses fesses là où des doigts l'étreignaient. Ses hanches sont prisonnières de puissants cercles d'acier, là où des jambes se refermaient sur lui. Et il voit ses yeux. Dans les quelques secondes précédant l'orgasme, où il tente de se retirer, refermant ses mains sur la gorge d'acier, tandis qu'elle s'agrippe comme une sangsue, une lamproie prête à le vider, et qu'il roule contre les cadavres environnants, ses yeux rouges brillants comme des rubis, brûlant d'une chaleur folle, comme celle qui ravage ses testicules près d'éclater, de s'embraser comme un incendie, de verser leur flot jaillissant. Il plaque violemment ses deux mains au sol, se soulève pour lui échapper, mû par une énergie insensée, mais impuissante à lutter contre la terrible gravité qui les cloue ensemble, qui les suce comme une bouche de lamproie et qui menace de le faire exploser. Il la regarde dans les yeux et voit la mort d'un monde, la mort de tous les mondes. Il se redresse de nouveau en hurlant, et des lanières de chair se déchirent de lui tandis qu'il réussit enfin à s'arracher à elle. Des mâchoires se referment en claquant dans le vagin de fer, manquant son gland d'un millimètre moite. Il retombe sur le côté, roule sur lui-même, encore pompant des hanches, incapable de retenir son éjaculation. Le sperme jaillit en torrent, retombe sur le poignet serré d'un mort. Cassade gémit, roule encore sur lui-même, se rétracte dans la position du fœtus et jouit encore et encore. Il entend le sifflement et le frottement de son mouvement lorsqu'elle se lève derrière lui. Il roule sur le dos et plisse les paupières pour lutter contre le soleil aveuglant et sa propre douleur. Elle le surplombe, les jambes écartées, silhouette hérissée de piquants. Il essuie la sueur sur son front, voit son poignet couvert de sang et se prépare à recevoir le coup de grâce. Sa peau se contracte, attendant la lame qui va le déchirer. Haletant, il lève les yeux et ne voit plus que Moneta au-dessus de lui, ses cuisses de chair et non d'acier, luisantes, sa toison mouillée du flot de leur étreinte passionnée. Son visage est sombre. Elle a le soleil derrière elle, mais il aperçoit des restes de flammes rouges qui se meurent dans l'abîme à multiples facettes de son regard. Elle lui sourit, et il voit des éclats de soleil se refléter sur l'alignement de ses dents de métal. Elle murmure « Kassad ». Mais c'est le bruit du sable crépitant contre des ossements qu'il entend. Il arrache son regard au sien, se remet péniblement debout, et enjambe les morts et les décombres encore fumants dans sa terreur panique qui le pousse à fuir ces lieux de toute la vitesse de ses jambes. Il ne se retourne pas une seule fois. Un peu moins de 2 jours plus tard, une patrouille des forces territoriales d'Hyperion retrouva le colonel Fedman Kassad gisant, inconscient, sur une petite élévation de terrain couverte d'un tapis d'herbe, à peu de distance de la forteresse abandonnée de Kronos, et à une 20aine de kilomètres de la cité morte et de l'épave du compartiment d'éjection extro. Kassad était entièrement nu et presque mort des suites de ses blessures graves et de son séjour exposé aux éléments. Il réagit cependant de manière satisfaisante aux premiers soins sur le terrain et fut immédiatement évacué par la voie des airs vers la chaîne bridée, puis sur un hôpital de Kitz. Les patrouilles de reconnaissance des FT firent prudemment route vers le nord, en prenant soin d'éviter le plus possible les marées anthropiques aux abords des tombeaux du temps, attentives aux engins piégés que les extros auraient pu laisser derrière eux. Mais elles ne trouvèrent rien de tel. Tout ce qu'elles découvrirent, ce fut l'épave de l'appareil qui avait permis à Kassad d'échapper aux extros, ainsi que les carcasses brûlées de 2 vaisseaux de descente qu'il avait poursuivis. Aucun indice n'expliquait pourquoi ils avaient scorifié leur propre vaisseau, et les cadavres disséminés à l'intérieur et autour des épaves, brûlant le tout en une masse impossible à analyser ou à autopsier. Kassad avait repris conscience 3 jours locaux plus tard, en jurant qu'il ne se rappelait absolument rien à compter du moment où il s'était emparé du calmar. Un vaisseau torche de la force l'avait pris à son bord 15 jours après, pour lui faire regagner le Retz. Il démissionna alors de l'armée et participa quelque temps aux activités de plusieurs mouvements antimilitaristes. On le vit 2 ou 3 fois sur les écrans de la Pangermie, à l'occasion de débats, où il défendait le désarmement. Mais l'attaque de Brescia avait orienté l'opinion de l'hégémonie vers la guerre interstellaire totale, mieux que n'aurait su le faire 3 siècles de discours, et la voix de Kassad fut noyée ou bien mise sur le compte de scrupules de conscience, affectant tardivement le boucher de Brescia. Durant les 16 années qui suivirent Brescia, Kassad disparut totalement de la conscience du Retz. Il n'y eut plus de grandes batailles, les extros demeurant cependant les croque-mitaines de l'hégémonie, tandis que s'estompait le souvenir des prouesses de Kassad. La matinée était presque achevée lorsque Fedman Kassad acheva son histoire. Le consul battit des paupières et regarda autour de lui, de nouveau conscient du vaisseau et de tout ce qui l'entourait pour la première fois depuis 2 bonnes heures. Le Bénarès avait maintenant rejoint le cours principal du fleuve Ouli. Le consul entendait les craquements des chaînes et des câbles tirés par les mantas dans leurs harnais. Le Bénarès était apparemment le seul navire qui remontait le fleuve, mais il y en avait plusieurs dans l'autre sens. Le consul se frotta le front. Il fut surpris de retirer sa main couverte de sueur. La journée était chaude et l'ombre de la bâche s'était déplacée sans qu'il s'en aperçût. Il scia, se frotta les yeux et gagna un coin d'ombre pour se verser à boire en choisissant l'une des bouteilles que les androïdes avaient posées sur un petit meuble à proximité de la table.
« Mon Dieu !» fit alors le père Hoyt. « D'après cette moneta, les tombeaux du temps se déplaceraient donc en arrière dans le temps ?»«
C'est exact, » répliqua Kassad.
Est-ce vraiment possible ?»«
Tout à fait, » lui répondit Sol Weintraub. « Si ce que vous dites est vrai, » intervint Brown Lamia, « vous auriez rencontré cette moneta dans son passé, mais dans votre propre avenir. » En un moment qui n'est pas encore arrivé pour nous.
C'est cela, fit Kassad.
Martin Silenus alla se pencher sur le bastingage et cracha dans le fleuve.
Colonel, est-ce que vous croyez que cette salope était en réalité le Gritch?
Je l'ignore,
fit Kassad dans un murmure à peine audible. Silenus se tourna vers Sol Weintraub.
Vous êtes un érudit. Y a-t-il quoi que ce soit dans la mythographie du Gritch qui indique que ce monstre soit capable de changer de forme ?
Non, répondit Weintraub. Il était en train de préparer un biberon sphérique pour sa fille qui babillait en pliant et en dépliant les doigts de ses petites mains.
Colonel, demanda Etmastine, ce champ de force individuel ou cet habit de combat, avez-vous pu le ramener avec vous après votre rencontre avec les extros et cette créature femelle ?
Cassad regarda le Templier quelques secondes avant de secouer négativement la tête. Le consul contemplait le fond de son verre, mais il redressa brusquement la tête, comme frappé par une forte pensée.
« Vous dites que vous avez eu la vision de l'arbre au supplice du Gritch, de cette structure, cette chose qui lui sert à empaler ses victimes. »
Cassad détacha du Templier son regard de basilic pour le reporter sur le consul. Il hocha lentement la tête.
« Et il y avait des cadavres accrochés aux branches ?»
Nouveau hochement de tête. Le consul se frotta le haut de la lèvre supérieure où perlait la transpiration.
Si l'arbre se déplace à rebours dans le temps comme les tombeaux, dit-il, cela signifie que les victimes viennent de notre futur.
Cassad ne répondit pas. Les autres regardaient maintenant le consul, mais seul Weintraub semblait comprendre le sens de sa remarque et sa finalité. Résistant à l'envie de se frotter de nouveau le haut de la lèvre, le consul reprit d'une voix tranquille « Avez-vous reconnu dans l'arbre certains d'entre nous ?» Cassad demeura silencieux durant une bonne minute. Puis les bruits du fleuve et les superstructures du navire parurent s'amplifier tandis qu'il répondait, après avoir pris une longue inspiration, « Oui. » Le silence de nouveau s'étira. Ce fut Brown Lamia qui le rompit.
Vous ne voulez pas nous dire qui ?
Non. Il se leva de son siège et se dirigea vers l'escalier qui menait aux ponts inférieurs.
Attendez !
Lui cria le père Hoyt. Cassad s'immobilisa en haut de l'escalier.
Il y a deux choses que j'aimerais que vous nous disiez.
Lesquelles ? Le père Hoyt grimaça sous l'effet d'une vague de douleur. Son visage décharné pâlit sous la pellicule de transpiration qui le recouvrait. Il prit une profonde inspiration, puis murmura
« Premièrement, est-ce que vous avez l'impression que le Gritch, cette femme ou qui que ce soit, voudrait se servir de vous pour déclencher cette terrible guerre interstellaire dont vous avez eu la vision ?»«
Oui, » murmura doucement Cassad.
Deuxièmement, « Pourriez-vous nous dire quel vœu vous avez l'intention de présenter au Gritch ou à cette Moneta quand vous serez en leur présence à l'occasion du pèlerinage ?»
Pour la première fois, Cassad sourit. Ce fut un sourire pâle et froid d'une froideur extrême.
« Je n'aurai aucun vœu à leur soumettre, » dit-il. « Lorsque je les reverrai, je les tuerai. »
Les pèlerins demeurèrent silencieux lorsque Cassad descendit dans les profondeurs du navire. Ils n'échangèrent pas même un regard tandis que le Bénarès continuait sa route nord-nord-est dans la chaleur étouffante de l'après-midi.